Radio Okapi.
Mesdames, Messieurs, voici l'ossature principale de votre journal. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité appelle la population congolaise qui vit sous les servitudes de la Société nationale d'électricité de quitter ces lieux. Appel lancé ce jeudi 3 février à Kinshasa au cours d'une conférence de presse au lendemain du drame de Matadi Kibala. Programme du développement des 145 territoires de la RDC, 450 millions de dollars américains sont déjà disponibles pour l'exécution de ce programme qui sera lancé la semaine prochaine par le président de la République, a annoncé le ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mondou. 8e édition du festival Amani qui commence ce vendredi 4 février à Goma. Nous en parlons avant la fin de ce journal avec Arlette Moussoungaï, directrice adjointe du festival, qui est l'invitée de votre journal. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à la fréquence de la paix et bienvenue dans ce journal. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité appelle la population congolaise qui vit sur les servitudes de la Société nationale d'électricité de quitter ces lieux. Appel est lancé ce jeudi 3 février ici à Kinshasa au cours d'une conférence de presse. Il a ajouté que ceux qui ne vont pas libérer ces espaces seront frappés par des mesures qui sont envisagées à ce sujet par le gouvernement. Olivier Mwenze Mukaleng est au micro de Paul Matendo.
J'en appelle à toutes ces personnes qui vivent et construisent sur les servitudes de la SNEL. C'est dangereux non seulement parce qu'il y a des risques d'électrocution comme on a vu hier à Matadi Kibala, mais c'est aussi dangereux parce que ça présente des problèmes. Vous pouvez avoir des problèmes de santé qui sont liés au champ magnétique qui est créé. J'en appelle vraiment à la population. Prenez vos responsabilités et quittez ces lieux. Pour ceux qui ne veulent pas quitter, malheureusement, il va y avoir des actions gouvernementales qui vont être prises parce que nous devons prendre nos responsabilités. Je n'ai pas de date à donner à ce stade parce qu'on doit coaliser les efforts entre les différents ministères dont j'ai parlé. Il est clair que les choses doivent changer. Nous devons prendre des actions parce que ce qui est arrivé hier, on ne veut plus que ça arrive dans le futur.
Notons que ce même appel a été lancé toujours ce jeudi par le directeur général de la SNEL au Congolais. Jean Bosco Kayombo, lui, s'exprimait ainsi au cours d'une conférence de presse conjointement animée par le ministre des Communications et Médias ainsi que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Le drame du marché de Matadi Kibala rappelle celui de Tipka et les pouvoirs publics sont responsables de ce qui arrive. C'est ce qu'affirme le parti politique Nouvel Élan, cher à Adolphe Mouzito. Tout en présentant ses condoléances famille endeuillée, cette formation politique réclame l'ouverture d'une enquête qui devra établir les responsabilités. On écoute Albert Mukulu Bundu, secrétaire national chargé des relations extérieures du parti Nouvel Élan.
La représentation extérieure de Nouvel Élan est révoltée face au drame que vient de subir les vendeuses de Matadi Kibala. Ce drame rappelle celui de Tipka. Il est inconcevable que l'on assiste au détournement des millions de dollars en toute impunité, alors que le peuple congolais continue à croupir dans la misère. Les fonds détournés auraient dû servir à la construction d'un marché moderne, mettant les vendeuses de Matadi Kibala en sécurité. Nouvel Élan exige une enquête sérieuse afin de déterminer les responsabilités des pouvoirs publics face à ce drame. Ces enquêtes pourraient déboucher sur des dispositions à prendre pour le reste des marchés et autres activités exposées à ce genre de drame à travers toute l'étendue du territoire national.
450 millions de dollars américains sont déjà disponibles pour l'exécution du programme du développement des 145 territoires dont le coût global est de 1,6 milliard de dollars américains. Ce projet sera lancé officiellement la semaine prochaine par le président de la République et c'est le ministre d'État, ministre du Plan, qui livre cette information à Radio Okapi. Christian Mondo demande aux entreprises locales à travers la FEC et la COPEMECO de s'organiser et de maintenant pour gagner les marchés quand ils seront lancés. On écoute au micro des Gumaté.
Je pense que le gouvernement que le président a mis en place au mois d'avril dernier n'a pas à réfléchir par rapport aux élections. La priorité nous a été fixée, la ligne de conduite nous a été fixée et nous avons traduit cette ligne de conduite en un programme. Et ce programme-là, c'est le programme que nous présentons. Il peut ou ne pas se terminer maintenant, mais le programme est là et il sera appliqué. Et nous espérons qu'il aura le terme, justement, avant la fin de ce mandat. Il faudrait que ce programme puisse au moins voir sa réalisation, si pas se terminer. Donc, l'agenda est un agenda de vision, ce n'est pas un agenda électoral. La durée est de 2 ans parce qu'on considère que au bout de 2 ans, il y aura une autre équipe probablement qui pourra prendre le relais, soit avec le même président, soit avec un autre groupe. Donc cela n'entre pas en ligne de compte. Notre travail, c'est d'aboutir à l'exécution parfaite de ce programme. Les marchés seront attribués par appel d'offres en privilégiant les entreprises ou les ONG locales qui sont installées localement, qui connaissent les terrains et qui utilisent les enfants des territoires.
Au Nord-Kivu, le gouverneur de province autorise la société Virunga Energy à distribuer du courant électrique dans les villes de Butembo et Beni afin de renforcer les capacités énergétiques des énergies du Nord-Kivu et NK. Celle-ci dessert actuellement ces deux villes. Le lieutenant général Constant Dima l'a dit dans une lettre adressée à Virunga Energy la semaine dernière. Le député national élu de Butembo, Eric Gamavu, qui plaidait pour l'extension de ces réseaux électriques, appelle les populations à s'approprier le projet. Florida Kambou pour les détails.
Dans sa lettre adressée à Virunga Energy, le gouverneur du Nord Kivu lui demande d'étendre son réseau électrique aux communes de Moussoussa et Boulengera dans la ville de Butembo et celle de Bungulu en ville de Beni. C'est après l'électrification de plusieurs agglomérations du territoire de Lubero, notamment la commune rurale de Lubero, Kimbulu et Moussienene. Satisfait de cette décision, le député national élu de Butembo, en vacances parlementaires dans sa circonscription, appelle les bénéficiaires à s'approprier les projets. Eric Kamavu interpelle notamment les groupes de pression qui, dit-il, ont souvent saboté les travaux d'électrification de la ville. Il dit que ce projet offrira plusieurs opportunités.
Avec le courant, la sécurité sera là, puisqu'il y aura l'éclairage public presque partout. Ensuite, il y aura la délinquance juvénile qui va disparaître, puisqu'il y aura beaucoup d'emplois. À part la création des emplois, ça va permettre à ceux qui déjà puissent utiliser les cuisinières électriques, les réchauds électriques, et ainsi de suite. Ça va faciliter les travaux de ménage.
Notons que plusieurs quartiers de la ville de Butembo attendent encore le renforcement de la capacité du courant électrique pour être raccordé. Butembo, Florida Kaambu, Radio Kapi.
Les jeunes entrepreneurs du site Kivu plaident pour une exonération fiscale sur leurs activités de développement. Ils disent faire face à la surtaxation et différentes tracasseries des agents percepteurs. C'est dans ce cadre que le Conseil provincial de la jeunesse a organisé le mercredi 2 février une réunion avec les différents acteurs qui interviennent dans ces secteurs. En matière des tracasseries et des surtaxations, l'une des régies financières indexées par les jeunes était la DGI. Mais selon Armel Loanouin, chef du Bureau contrôle fiscal DGI Sud Kivu, toutes les activités menées par la DGI ont un soubassement légal. Restons au Sud Kivu, environ 54% de la population locale vit en insécurité alimentaire. Révélation de l'enquête menée en 2021 par l'Institut national des statistiques et dont les résultats ont été présentés le mardi 1er février à Bukavu. Une activité du ministère provincial de l'agriculture en collaboration avec le programme alimentaire mondial PAM. Reportage de Rachel Kessembangou, rendu ici par Emmanuel Elamejoua Kabedi.
L'objectif principal de cette étude était de dégager le nombre de ménages et la prévalence de l'insécurité alimentaire au Sud Kivu à ces jours. Il en ressort que presque la moitié de la population totale de la province est frappée par l'insécurité alimentaire. Monsieur Innocent Kadekere, directeur provincial de l'Institut national de la statistique.
La prévalence de l'insécurité alimentaire au Sud Kivu est de 54,5%, soit plus de 3 millions de personnes qui souffrent de l'insécurité alimentaire, pratiquement la moitié de la population.
Ce sont les territoires de Fizi, Mwenga et Kalehe qui sont les plus frappés. Mais comment renverser la tendance et relever la prévalence de la sécurité alimentaire? Monsieur Robert Biachanda, ministre provincial de l'agriculture.
Avec tout ce que la province a comme difficulté, c'est pas facile de réduire l'insécurité alimentaire. Mais l'objectif du gouvernement provincial, c'est d'arriver à une solution adaptée et aussi définitive à l'insécurité alimentaire. Nous avons de nombreux partenaires qui sont dans le secteur, nous les demandons, puissent s'aligner au programme du gouvernement provincial. Cela aussi va éviter la duplicité des projets qu'ils implémentent chez nous.
Emmanuel Elamejoua Kabedi, Bukavu, Radio Kapi.
Le gouvernement a une semaine pour honorer son engagement pris au pourparler d'Mbuela Lodji Akisantu, celui d'accorder une prime de la gratuité aux enseignants du primaire à partir du mois de décembre dernier. Ce préavis lui a été lancé hier jeudi à Matadi par les délégués des enseignants des écoles primaires en synergie avec les syndicats de l'EPST. Dans une déclaration à la presse à l'issue d'une assemblée générale, ces délégués des enseignants du primaire affirment que si jusqu'à vendredi 11 février, le gouvernement ne leur paye pas deux mois de la dite prime, ils lanceront l'opération École sans enseignants dans tous les établissements des écoles primaires. Suivez un extrait de leur déclaration, lu par Simon Tiloulou, porte-parole de la synergie des enseignants, qui est au micro de Nana Plus Riche Mambou.
Les délégués des enseignants des écoles primaires du Congo central se sont réunis pour exprimer leur mécontentement du non-respect de l'engagement pris en Mbuela Lodji, accordant une prime de la gratuité à partir du mois de décembre qu'on n'a jamais eu jusqu'aujourd'hui aux enseignants du primaire comme première étape de l'engagement accepté par nous tous en Mbuela Lodji. Face à ce manque de bonne volonté, accompagné d'une mauvaise foi de notre gouvernement, les délégués des enseignants des écoles primaires du Congo central préavisent le gouvernement de la République par un moratoire allant du jeudi 3 au jeudi 10 février 2022 pour payer les deux mois en urgence. Faute de quoi, le gouvernement de la République mettra les enseignants des écoles primaires du Congo central dans une position à ne plus reprendre le travail à partir du vendredi 11 février 2022. L'opération École sans enseignants dans tous les établissements des écoles primaires sera observée.
Une mission d'évaluation sécuritaire de la MONUSCO est rentrée ce jeudi de la ville de Baraka au sud Kivu. L'activité fait suite aux affrontements la semaine dernière entre les FARDC et les miliciens Mai Mai sur les hauteurs du village de Leba, à 16 km au nord de Baraka, dans le groupement Bassimouniaka Nord, en territoire de Fizi. La situation avait conduit au mouvement des populations civiles vers la ville de Baraka. Selon le commandant du 2202e régiment des FARDC à Baraka, le colonel David Ipanga, la situation est relativement calme et sous contrôle à Leba. Des retours de Baraka.
Les troupes de FRDC du 34-07e régiment ont effectué des patrouilles de combat à Lueba, Tubondo ainsi qu'à Katenga au nord de la ville de Baraka. Concernant la présence des éléments armés Mai Mai à Lueba et ses environs, le commandant des FRDC de la ville de Baraka, le colonel David Ipanga, rassure que la situation est sous contrôle.
La situation pour le moment est relativement calme à Lueba. Après tout ce qu'il y a eu, il y a eu d'abord vol de vaches par un groupe de Mai Mai qui avait été poursuivi par l'unité basée à Bibokoboko, une unité FRDC, le 3407. Après cette poursuite, il y avait échange dans un village appelé Tubondo. C'est cet échange qui a provoqué le déplacement massif de la population de Lueba. Mais pour le moment, la situation est relativement calme et il n'y a pas présence de Mai Mai à Lueba.
Ces miliciens Mai Mai appartenaient au groupe armé Toronto, un ancien du groupe Kibukila qui était caché dans la forêt de Lueba. La maire de la ville de Baraka, Emeret Itabisha, confirme qu'elle s'est déplacée, ont regagné Lueba, leur village, mais dans des conditions humanitaires difficiles. Le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise de Baraka, Jacques Abongolo, de son côté, plaide pour une assistance humanitaire aux retournés de Lueba. De retour de Baraka, Fiston Mamayabala, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, le curé de la paroisse des Kaseye, au sud du territoire de Lubero, le père Kaseye Kamasivi Richard a été tué par des inconnus mercredi dans la nuit. Le bourgmestre de la commune rurale de Kirumba, qui confirme la nouvelle, condamne ce meurtre. De son côté, la société civile locale, qui s'est dit préoccupée par la situation, appelle les autorités à diligenter une enquête afin d'identifier les auteurs de ces crimes et de les punir. À Beni, des bandits armés ont cambriolé les domiciles d'un journaliste la nuit de mercredi à hier jeudi. Selon la victime, les malfrats ont emporté plusieurs biens de valeur après l'avoir menacé. En l'espace des mois, les domiciles de deux journalistes ont été visités, souligne l'UNPC Beni. Ainsi, son président demande aux autorités de veiller à la sécurité des professionnels de médias dans cette zone en proie à l'insécurité. Moustapha Moulonda l'a dit au micro de Guylaine Kassassia.
On se réquira aujourd'hui et nous Nous pensons qu'il n'y a pas de menace zéro, surtout dans notre ville où l'insécurité bat record. Et les journalistes être poursuivis comme ça et jusqu'à leur domicile, on se pose beaucoup plus de questions. Pourquoi seulement les journalistes en cette période où les journalistes sont censés soit dénoncer, soit orienter les populations sur l'actualité du moment. Nous, comme INPC, nous sommes en train de travailler là-dessus pour essayer un peu de voir les causes profondes qui font à ce que les journalistes soient cambriolés et les biens emportés, et mais aussi les matériels du travail emportés. C'est vraiment compliqué dans le cadre de notre profession. Ce que nous avons réussi à faire, et avec nos collègues, c'est d'introduire seulement les plaintes contre l'inconnu, parce que si les matériels ou autres biens des victimes se retrouvent dans de mauvaises mains, ça risquerait encore de se retourner contre nous.
L'invité. La 8e édition du Festival Amani commence ce vendredi 4 février au village Iwusi à Kitoukou. Ce rendez-vous annuel qui existe depuis 2013 a pour but de promouvoir la paix dans la région des Grands Lacs à partir des Goma. Arlette Moussoungaï, directrice adjointe du Festival Amani, est notre invitée. Elle s'entretient avec Rosalie Zawadi.
Madame Arlette Moussoungaï, bonjour.
Bonjour.
La 8e édition du Festival Amani commence ce vendredi 4 février 2022 à Goma. Présentez-nous d'abord le Festival Amani.
Alors, le Festival Amani a été créé depuis 2013 par un groupe de jeunes ambitieux dans plein de domaines. Le développement de leur ville, le développement de la culture dans la ville. Et on a créé le Festival Amani, qui est un festival de musique et de danse, qui, pour sa première fois, a eu lieu en 2014, quoiqu'il a été créé en 2013. Et c'était une nouvelle expérience dans la ville, une expérience qui continue à vibrer, une expérience qui continue à donner des fruits, des très beaux fruits. Et ces fruits que nous sommes en train de voir aujourd'hui.
Les initiateurs du festival voulaient donner une autre image à la ville de Goma. Pas une ville martyre, pas une ville capitale de l'insécurité, mais une ville espoir pour la RDC.
Oui, c'est aussi l'un des principaux buts de ce festival. En tout cas, le plus grand, c'est essayer de changer l'image de notre ville qui est la ville de Goma. L'image qu'a le monde extérieur, parce que jusqu'à présent, je sais que Goma est en rouge. Et rouge, ça veut dire déjà qu'on peut pas venir, on tue les gens tout le temps, on n'est pas en sécurité et tout. Donc, nous, on veut que les gens nous approchent. Peu importe l'image qu'ils ont, qu'ils découvrent un peu c'est quoi Goma. Grâce à ce festival, ils vont découvrir c'est quoi Goma. Grâce à tous les projets des entrepreneurs, ils vont découvrir c'est quoi Goma. Ils vont découvrir que les jeunes sont ambitieux dans plusieurs domaines, surtout pour développer notre chère ville en particulier et notre pays en général.
De 2014, nous sommes en 2022, la 8e édition. Quelle est la particularité de cette édition ?
Alors, moi, j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est que le festival, même si on peut dire qu'à 0,002, il contribue au développement de cette ville, en tout cas, je peux le confirmer, parce que avec la particularité qu'on a chez les entrepreneurs, grâce au festival, on a rehaussé cette particularité entrepreneuriale, on a rehaussé l'ambition des jeunes pour plusieurs projets, on a rehaussé l'ambition des idées des jeunes en les développant en projet. Et aujourd'hui, on a eu plus de 600 projets qui ont été postulés. Malheureusement, on ne pouvait pas en prendre tous, mais ça aurait été l'idéal si on avait assez de moyens pour les prendre tous. Aujourd'hui, on a plusieurs projets qui ont déjà créé de l'emploi pour d'autres jeunes. C'est déjà une particularité pour 2022, pour la 8e édition. Mais aussi, la plus grande particularité, c'est qu'on a changé des sites. Ça, c'est aussi une des particularités. Nous sommes maintenant à Kitoukou, nous ne sommes pas au collège Mwanga. Et aussi, cette année, nous avons des artistes qui viennent du Congo Brazza et du Congo démocratique. C'est aussi une particularité côté artistique. Côté village entrepreneurial, aussi, il y a une particularité, c'est qu'il y aura les projets qui ont été primés au festival, qui vont exposer leur business, qui aujourd'hui, ce n'est plus un projet, c'est maintenant des entreprises. Ils vont exposer un peu ce que ça donne, ce que c'est maintenant, ce que ça produit, combien ils ont déjà engagé comme personne dans la ville. Voilà la particularité un peu pour le côté entrepreneurial. Du côté festival, on n'aura que deux scènes cette année. La première, qui est la grande scène Joe Paluku, et la troisième, qui est la scène Village Associatif. La deuxième, elle n'aura pas lieu. Donc, on a toujours appelé troisième et, deux, et première scène.
Parce que le festival Amani, c'est la musique et la danse. Quelles sont les têtes d'affiche pour cette édition?
Alors, têtes d'affiche, il y a Roga Roga du Congo Brazza, il y a Moumbi et il y a Alèche. Moumbi et Alèche qui sont congolais du Congo démocratique. Il y a plusieurs artistes autres qui vont accompagner, qui viennent du Rwanda. Il y a Charlie et Nina. Il y a ceux de Bukavu et Afande Ready. Il y a SLM de Beni Boutembo et Faba qui est de Boutembo également. Donc on a un peu réuni le Congo, les deux Congos, pour cette année, cette édition.
Arlette Moussungaï, je rappelle que vous êtes directrice adjointe du Festival Amani. Merci.
Merci.
Et c'est la fin de ce journal supervisé par Pélé Kipé Lamondo. Quant à moi, Piro et la Meji, je vous dis merci de l'avoir suivi.